Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 93e podcast Interstice. Alors que l'été est bien installé, une question brûle les lèvres des vacanciers du monde entier. Comment faire le château de sable parfait? Pour répondre à cette question, mais surtout pour parler de ses recherches, je reçois aujourd'hui Christophe Henry. Christophe Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur INRIA au sein de l'équipe Callisto et vous travaillez sur la modélisation de l'écoulement de particules. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il y a une recette du château de sable parfait?
Eh bien, en théorie, oui, mais en pratique, malheureusement, non. On croit que, en fait, pour faire un château de sable, il suffit de mettre de l'eau, du sable, puis de mélanger et de retourner le tout. Le phénomène est un petit peu plus complexe. Alors, en fait, en théorie, ce qu'il faut, c'est qu'on mette juste ce qu'il faut d'eau pour qu'il y ait ce qu'on va appeler des ponts capillaires qui se forment entre les grains de sable. Alors, ces ponts capillaires, ce sont des sortes de petites arches d'eau qui vont connecter deux grains de sable entre eux et qui jouent le rôle de liant, finalement, un peu comme de la colle. Alors, quel est le problème de la recette, me direz-vous? Eh bien, c'est justement le mélange. Parce que si localement, vous n'avez pas assez d'eau, eh bien, ces zones où il n'y a pas assez d'eau vont se retrouver fragilisées par cette absence d'eau, et donc l'absence de ponts capillaires qui ne peuvent pas jouer le rôle de liant. Et à l'inverse, si vous mettez trop d'eau, vous aurez le problème inverse, puisque cette fois-ci, les grains de sable vont baigner dans un liquide, et il n'y aura pas non plus de liaison capillaire entre les grains. C'est donc ce mélange qui pose bien le problème de cette recette, mais il en faudrait évidemment beaucoup plus pour décourager tout un chacun de faire des châteaux de sable.
Et alors, à part la construction du château de sable parfait, quel est le but de modéliser des microparticules comme les grains de sable?
Alors, donc, le but de mes recherches, c'est justement, donc, je travaille en tant que physicien numéricien, c'est-à-dire que je vais développer des modèles pour rendre compte de la physique, de ce qui se passe, et ensuite implémenter donc ces modèles dans des codes de simulation, c'est-à-dire d'écrire des programmes informatiques pour permettre de résoudre justement ces équations-là, et ensuite de faire des simulations à différentes échelles. Donc dans le cas, par exemple, des grains de sable ou de particules encore plus petites, la difficulté, c'est qu'on a deux phénomènes qui vont être couplés, typiquement. C'est des phénomènes liés au fait que, dans le cas du sable, l'air va avoir tendance à transporter le sable sur des distances plus ou moins grandes, alors qu'à l'inverse, on a des phénomènes plus physico-chimiques qui font que les particules vont avoir tendance à déjà retomber sous l'effet de la gravité, et une fois qu'elles sont sur une surface, à rester plus ou moins collées à cette surface-là. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être capable, en termes de modèles, de rendre compte de cette diversité de phénomènes avec des modèles simplifiés, donc en faisant un certain nombre d'hypothèses, pour essayer de répondre à la question qu'on va se poser. Justement, tout l'enjeu, c'est au départ de bien définir la question.
Vous disiez que ça peut être des grains de sable, ça peut être des particules beaucoup plus petites. À quelles particules vous intéressez en priorité?
Durant ma thèse et les années qui ont suivi, donc, j'ai beaucoup travaillé sur des particules qu'on appelle colloïdales. Donc, ce sont des particules qui en fait ont une taille entre quelques nanomètres et quelques dizaines de micromètres. Alors, une autre définition possible, ce sont des particules, en fait, où le mouvement brownien va compenser la gravité. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement brownien? Quand vous avez donc une particule dans de l'air ou de l'eau, vous avez cette particule qui est toujours en contact avec donc, des molécules d'air ou d'eau et qui va donc avoir un mouvement erratique qu'on appelle, en fait, mouvement brownien. Donc, ce mouvement aléatoire peut, justement, lorsque les particules sont très très petites, compenser les phénomènes de gravité, c'est-à-dire que la gravité n'est plus assez forte pour avoir tendance à faire donc tomber la particule vers le sol. Et donc ces particules colloïdales-là, c'est donc tout un aspect de, toute une gamme plutôt de particules sur lesquelles j'ai travaillé, puisque ça l'a fait intervenir à la fois toujours les mêmes difficultés en termes de modélisation des phénomènes physiques de transport, mais en plus ça ouvre tout un champ des possibles en plus, avec les phénomènes physico-chimiques, notamment les interactions entre ces particules avec des phénomènes d'adhésion, donc des phénomènes plus liés à la physico-chimie des surfaces, qui prennent une part beaucoup plus importante que si on regardait des particules beaucoup plus grandes, comme par exemple les galets, où là, les galets, ce qui fait que les galets vont rester collés à une surface, c'est que justement, les galets ont un poids beaucoup plus important, donc la gravité va être la force majeure dans ce cas-là.
Ça, c'est le travail de votre thèse, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Comment on en vient à travailler sur la modélisation de ces mouvements de microparticules?
Ce qui m'avait motivé au départ à travailler sur ce sujet-là, c'était un petit peu une question d'enfant. puisque je m'intéressais notamment au phénomène donc, de dépôt de particules sous forme de vaguelettes. Donc j'avais fait le parallèle à l'époque, quand on va en bord de mer, on voit souvent sous la surface de la mer, proche de la plage, ces petites vaguelettes que forme le dépôt marin formé donc, par le sable. Et donc c'est ce qui m'avait motivé à me dire, bah, tiens, est-ce que moi j'en saurais plus, finalement, à travers ces simulations-là sur pourquoi on a ce genre de dépôt sous forme de vaguelettes. Et alors après, donc, en rentrant dans ce sujet-là, j'ai découvert la multitude de problématiques et la richesse de ces problématiques-là, alors avec à la fois les thématiques liées donc au transport de ces petits grains de sable, de ces petites particules par l'écoulement, également donc à leur dynamique dans un écoulement qui peut être complexe, toutes les problématiques liées également donc au dépôt de ces particules, où une fois qu'elles sont dans l'air ou dans l'eau, où est-ce qu'elles vont aller se déposer. Il y a également les phénomènes de ce qu'on appelle remise en suspension, c'est que des particules sont déposées et sous l'action donc, de l'écoulement, elles vont avoir tendance à être arrachées de la surface. Et il y avait également tous les phénomènes donc, et mécanismes liés à cette fois-ci à ce qu'on appelle la formation donc, d'agglomérats de particules. Donc il y a toute cette richesse des phénomènes, donc à la fois au niveau des mécanismes, mais également de la physique et de la chimie qui sont en jeu avec les phénomènes de transport, les phénomènes d'adhésion. Et parfois, lorsque l'on va vers des particules plus complexes encore, comme des particules biologiques, là, on peut avoir des phénomènes plus biologiques ou organiques qui rentrent en compte également.
Vous le disiez, la modélisation du mouvement de ces microparticules, elle est très complexe. Comment est-ce que vous arrivez à savoir quel est le paramètre le plus important à conserver tel quel dans la modélisation ?
Je dirais que l'enjeu dans cette question-là, c'est encore une fois, quelle est la question de départ à laquelle on veut répondre ? Et également, est-ce que l'on essaie de développer un modèle uniquement pour répondre à cette question-là, ou est-ce que l'on essaie de développer un modèle qui soit générique ? Alors, dans mon cas, j'ai toujours essayé de développer une approche de modélisation qui soit la plus générique possible et qui donc permette de prendre en compte toute une richesse de phénomènes. Donc, par exemple, je ne vais pas faire un choix en disant « dans ma simulation, j'active le mouvement brownien » ou bien j'active des phénomènes liés au transport par un écoulement turbulent. Au contraire, je vais avoir ces phénomènes-là qui sont dans mon modèle. Et naturellement, par le fait que les particules sont de petite taille ou de grande taille, ces phénomènes-là vont justement être importants ou négligeables, mais c'est le modèle qui va le retrouver automatiquement. C'est justement le cas des particules colloïdales, le mouvement brownien est très important. Alors qu'à l'inverse, des particules comme des galets, elles, le mouvement brownien est complètement négligeable et c'est la gravité qui va jouer. Donc dans ce cas-là, en fait, le modèle va être capable naturellement de prendre en compte l'effet du mouvement brownien pour des galets, sauf qu'on va très vite se rendre compte qu'en fait, cela va jouer très 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 peu dans les simulations. Encore une fois, on aurait pu choisir, mais ce n'est pas forcément toujours l'approche que je retiens, on aurait pu choisir d'avoir un modèle qui ne répond uniquement qu'à une seule question. Et dans ce cas-là, on aurait fait ces choix-là, mais on aurait dû rester conscient des choix, des hypothèses de modélisation, pour justement ne pas ensuite utiliser ce genre de modèle-là dans un contexte où ils ne sont pas justement applicables.
Vous pouvez modéliser beaucoup de particules différentes pour répondre à beaucoup de questions différentes. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Alors justement, en ce moment, donc l'une de mes activités, c'est l'agglomération. C'est donc lorsque l'on a deux particules qui sont présentes dans un écoulement et que ces deux particules vont se rencontrer à travers l'action de l'écoulement sur ces particules-là. Ces particules-là peuvent se coller et former ce qu'on appelle un agrégat. Donc en fait, lorsque ces particules rentrent en collision, on a en fait plusieurs scénarios possibles. Soit les particules vont rebondir, c'est ce qu'on appelle une collision. Alors on peut avoir ce qu'on appelle une collision élastique, c'est-à-dire que les particules vont rebondir et s'éloigner sans avoir perdu en fait d'énergie. On peut avoir des collisions inélastiques, c'est-à-dire qu'une certaine énergie est perdue lors de la collision. Un troisième scénario possible, c'est que ces particules, lorsqu'elles vont rentrer en collision, elles vont se coller entre elles et former donc ce qu'on appelle un agrégat. Et donc là, tout l'enjeu dans la modélisation, notamment la modélisation à des échelles macroscopiques, c'est que on ne peut pas se permettre de suivre toutes les particules dans l'écoulement. Donc, si je vous prends un exemple, pour vous donner une idée, c'est si cette fois-ci j'essaie de calculer à quelle vitesse, donc, par exemple, des particules présentes dans une centrale de retraitement des eaux usées où on veut justement enlever certaines des particules, on va favoriser leur agglomération. C'est-à-dire on va favoriser l'apparition d'agrégats de taille de plus en plus grosse, et ces agrégats auront le bon goût justement de sédimenter, et donc on pourra récupérer en surface les eaux avec moins de ces particules que l'on aura de cette manière-là filtrées. Donc si on essaie de répondre à cette question-là, on ne peut pas se permettre de suivre les millions, voire milliards de particules qui sont présentes dans cet écoulement-là. Et on a besoin donc d'une approche qui nous permette de reproduire ce qui se passe à des échelles plus macroscopiques.
Et à terme, le but, c'est que les modèles soient utilisés par d'autres chercheurs sur des exemples concrets ?
Alors effectivement, c'est l'idée. Donc, je travaille donc dans l'équipe avec notamment des chercheurs qui sont plus physiciens également, et avec lesquels donc, je vais réaliser des simulations qu'on appelle microscopiques. Donc l'idée, c'est d'extraire de ces simulations microscopiques-là des modèles qui vont permettre de rendre compte de ces phénomènes observés dans des simulations microscopiques, à défaut parfois d'être observés dans des expériences fines. Et donc l'objectif, c'est qu'ensuite ces modèles-là soient rendus disponibles à la communauté de chercheurs, et notamment, donc ça se fait à travers donc, dans des modèles qui sont implémentés dans ce qu'on appelle des codes CFD. Donc c'est en fait des codes qui vont permettre de résoudre un écoulement fluide turbulent, avec des vitesses parfois importantes et donc avec des phénomènes d'agitation importantes. Donc l'idée, c'est dans ce cas-là d'être capable de rendre compte de ces phénomènes-là à grande échelle en utilisant ces outils donc de mécanique des fluides numériques, permettent donc typiquement de donner une information, alors non pas sur une vitesse instantanée à n'importe quel endroit du système qui nous intéresse, mais plutôt une information moyenne. Donc typiquement, on va avoir une information sur la vitesse moyenne de l'écoulement dans certaines régions, et également sur les fluctuations de cette vitesse-là.
Et dans quel contexte ils sont utilisés, ces outils ?
Déjà, il y a tout un contexte lié à des écoulements plus industriels. Dans le cadre de mes travaux de thèse à l'époque, l'un des objectifs, c'était d'être capable de comprendre à quelle vitesse un dépôt peut se former dans des échangeurs de vapeur. Tout comme dans la vie de tous les jours, on peut avoir le problème d'un tuyau qui se bouge parce qu'on a un dépôt calcaire qui s'est formé. Donc là, c'est un peu similaire à une échelle différente. Il y a d'autres problématiques qui sont plus environnementales cette fois-ci, comme par exemple être capable de comprendre et prédire où est-ce que les polluants qui peuvent être émis par une cheminée, où est-ce que ces polluants vont se disperser et potentiellement où est-ce qu'ils peuvent ensuite se déposer et s'accumuler dans l'environnement.
Est-ce que vous avez réussi à répondre à votre question d'enfant ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire pourquoi est-ce qu'on voit ces vaguelettes au fond de l'océan ?
Partiellement, puisque c'est lié... Alors, c'est une richesse de phénomènes qui ont lieu, et c'est lié à une espèce d'équilibre entre à la fois l'action de l'écoulement sur le dépôt qui s'est formé et une espèce d'instabilité présente dans la surface. Donc, c'est au départ, lorsque le sable va sédimenté sur le fond océanique, notamment proche des plages, on n'a pas quelque chose qui est parfaitement lisse. On a toujours un petit peu ce que nous on appelle de la rugosité, on pourrait dire en fait des espèces d'irrégularités. Et ces irrégularités, en fait, sous l'action du fluide, donc, vont avoir tendance à créer donc, des formes plus ou moins complexes sur le type de dépôt. Donc là, c'est sous l'action du flux et reflux donc, de l'eau. On a donc cet équilibre qui va se former pour donner lieu donc, à ce qu'on voit sur les plages avec ces petites vaguelettes de sable à des échelles donc, de l'ordre de quelques centimètres.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe Henry, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et à bientôt sur Interstice.
À bientôt et bonne journée.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.